donc l'heure de votre journal, Frédéric Barrère.
Bonjour à tous. La campagne pour l'élection présidentielle démarre vraiment ce week-end. Deux meetings aujourd'hui, avec par ordre d'apparition Jean-Luc Mélenchon à La Défense et Éric Zemmour à Villepinte. Hier, les Républicains ont choisi leur candidate, Valérie Pécresse. Nous serons dans un instant à Villepinte, invité de ce journal, Édouard Le Cerf, politologue, directeur général adjoint du groupe BVA. Le pape François, ce matin sur l'île de Lesbos, en Grèce, au chevet des migrants. Le pape a appelé à mettre fin à un naufrage de civilisation. Dans ce journal également, près de 74 millions d'euros de promesses de dons pour le Téléthon. Le championnat du monde de handball féminin, cet après-midi, la France affronte la Slovénie et nous irons à Rennes où s'achèvent les 43e transmusicales avec 56 000 participants. La météo, pluie ou averse et vent, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées restent en vigilance orange aux avalanches. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
L'actualité politique ce dimanche, c'est d'abord le meeting d'Éric Zemmour, premier meeting de campagne du candidat Zemmour à la présidentielle à Villepinte, en Seine-Saint-Denis, initialement prévu au Zénith de Paris. Le candidat d'extrême droite réunit ses troupes au parc des expositions de Villepinte pour des questions notamment de sécurité. Un meeting avec un nouveau slogan, impossible n'est pas français. Et après une pré-campagne chaotique, Éric Zemmour espère une démonstration de force, Élodie Forêt.
15 à 20 000 personnes attendues, une scène immense, 449 accréditations délivrées selon l'entourage pour les journalistes. À Villepinte, l'équipe Zemmour voit grand, objectif taper fort pour faire oublier les dernières séquences, un déplacement raté à Marseille et une mauvaise première interview mardi soir au JT de TF1. Autre enjeu cet après-midi, réussir à parler aux électeurs de droite, à tous ceux notamment qui seraient déçus de la victoire hier au congrès de Valérie Pécresse, des électeurs ligne Ciotti à qui Éric Zemmour s'est déjà adressé hier dans une lettre ouverte. « Soyez certains, leur écrit-il, de mon désir de nous voir prochainement monter à l'assaut de la fatalité. » Une main tendue donc, alors que pour le moment, hormis les représentants de la droite la plus conservatrice, Christine Boutin, Jean-Frédéric Poisson, Laurence Trochu, le nombre d'alliés politiques de poids reste minime. Une critique que balaie l'entourage, les ralliements viendront plus tard. Pas de quoi gâcher donc cette grande messe où sera notamment dévoilé le nom du parti.
Un meeting et une journée à risque entre manifestations et tensions redoutées. La police attend beaucoup de monde lors de ce meeting et lors des manifestations des opposants à Éric Zemmour. Une cinquantaine d'organisations syndicales, de partis et d'associations appellent à manifester cet après-midi à Paris pour faire taire Éric Zemmour entre Barbès et la Villette. Une manifestation pour bloquer Zemmour est également organisée par l'action antifasciste Paris banlieue à Villepinte. Sur place, en direct de Villepinte, on retrouve Adrien Serrière. Bonjour Adrien.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Et la police tient les antifas à distance.
Oui, on s'attendait en fait à une situation tendue hein, à Villepinte. C'est vraiment le cas. Les militants antifascistes sont arrivés tout à l'heure vers midi. D'abord, un groupe d'une centaine de personnes arrivées groupées à la sortie de la gare RER. Et la situation a très vite dégénéré avec l'arrivée d'un autre groupe de militants d'extrême droite. Cette fois, selon plusieurs témoins, ils étaient armés, notamment de barres de fer. Le groupe antifasciste a alors pris la fuite, pourchassé surtout par les forces de l'ordre présentes en très grand nombre. Et résultat, une grande partie de ces militants antifascistes qui voulaient, pour certains, perturber le meeting d'Éric Zemmour se retrouvent maintenant nassés dans une zone très éloignée du parc des expositions. La police les empêche de se déplacer, alors que pendant ce temps, la situation reste tendue devant la gare RER à l'entrée du parc des expositions de Villepinte. D'autres militants antifascistes sont présents, arrivés un peu plus tard. Difficile de dire où se trouve désormais le groupe d'extrême droite. En tout cas, les forces de l'ordre font leur possible pour isoler chaque groupe de personnes, empêcher une confrontation et garantir l'accès qui est pour l'instant très compliqué au parc des expositions.
Adrien Serrière, merci, avec Georges Thau. Et de son côté, Jean-Luc Mélenchon est lui en meeting à La Défense pour lancer une nouvelle étape de sa candidature sous le signe de l'Union Populaire. Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise attendent plusieurs milliers de personnes pour ce meeting à La Défense avec le Parlement des personnalités qui soutiennent le candidat Mélenchon. Laurence Perron.
Non, le PUP, comme on l'appelle ici, le Parlement de l'Union Populaire, ça n'est ni un comité de soutien, ni un fan club. L'eurodéputé Manon Aubry, qui en est l'artisane avec Éric Coquerel.
Non, c'est pas un comité de fans, ils n'ont pas une petite photo de Jean-Luc Mélenchon qui leur est distribuée à l'entrée. Non, en réalité, c'est des gens qui vont participer à l'élaboration de la stratégie de la campagne, qui vont participer à l'élaboration de plans thématiques et qui se construisent aussi sur les mobilisations de ces 5 dernières années, que ce soit les Gilets jaunes, les mobilisations sociales pour les retraites, les mobilisations féministes ou antiracistes ou écologistes qui ont, mobilisé une grande partie de la société et qui se retrouvent aujourd'hui dans le Parlement de l'Union Populaire.
Au-delà de la force de conviction ou de réseau d'une Annie Arnaud ou d'un Bruno Gassiot, il faut désormais aller chercher les classes populaires, estime le député Alexis Corbière.
Voilà, maintenant, tous ceux qui se disent ça ne peut pas se réduire la deuxième dose de M. Macron ou l'extrême droite, ce qui est un sentiment, je crois, très partagé dans le pays, eh bien, même si vous ne partagez pas 100% de nos 694 propositions, vous êtes sans doute pour le partage des richesses, pour une transition écologique et pour un système institutionnel plus démocratique. Au moins là-dedans, il y a des choses dans lesquelles vous dites « là, il y a un bulletin de vote qui vaut le coup et c'est ce qu'on propose ».
Et Jean-Luc Mélenchon devrait aujourd'hui, en meeting, taper sur ce clou.
Laurence Perron, invité de ce journal, Édouard Le Cerf, directeur général adjoint de l'Institut de sondage BVA. Bonjour Édouard Le Cerf.
Bonjour.
Alors ce meeting d'Éric Zemmour, on parle de Paris, de Villepinte. Son entourage assure qu'il y aura 19 000 personnes. Est-ce que c'est avant tout l'occasion pour Zemmour de compter ses troupes?
Ah, il y a plusieurs éléments dans les défis, entre guillemets, qu'Éric Zemmour doit faire face. Il y a naturellement un défi dynamique d'abord. On l'a vu, notamment dans les sondages, accélérer puis avoir une forme de ralentissement. Donc là, il s'agit de donner des éléments, de preuves pour ceux qui pourraient être attirés par sa candidature, du fait que cette dynamique est toujours là. Donc là, ce sera des images, ce sera du bruit, du son, mais en tout cas, c'est un premier élément. Il y a un élément aussi de crédibilité à l'épreuve du réel, en quelque sorte. On l'a vu, c'est sorti dans la vie réelle, au-delà des plateaux de télévision, de la manière de faire de la polémique, ont été un peu plus compliqués. Donc là aussi...
Oui,
c'est...
il a multiplié les faux pas, les impairs,
exactement,
et donc il reste clivant.
Exactement, il reste clivant. Donc là, il faut redonner une image de cette forme de crédibilité, et puis une crédibilité aussi dans la présidentialité, parce que c'est aussi un des éléments sur lequel... Lorsqu'il est mesuré, eh bien, il a encore une forme de retard. Donc là, il faut aussi montrer qu'au-delà de sa personnalité, il dit qu'il n'est plus le journaliste, il n'est plus le polémiste, mais il est maintenant autre chose. Il faut qu'il donne des preuves de ça avec le nom d'un parti. Ça doit y jouer. Il faut aussi qu'il apporte des éléments de crédibilité à travers autre chose que la dénonciation. C'est-à-dire qu'il a aujourd'hui besoin, et sans doute qu'on entendra à travers son discours, j'imagine, des éléments qui permettent de se projeter. C'est-à-dire que les Français, ça n'est pas simplement dans la bulle un peu virtuelle des sondages et de l'opinion aujourd'hui qu'il doit se positionner, mais sur quelque chose qui donne le sentiment qu'il va y avoir beaucoup plus de choses palpables. Dernier élément, c'est le lendemain de la désignation de la candidate de droite. Donc naturellement, pour lui, il y a un élément de dynamique, montrer que c'est lui, le pôle, qui peut être un peu plus celui qui va être facteur de cette centrifugation nécessaire pour les électeurs de droite.
Alors il y a donc vraiment un pari hein, pour Éric Zemmour.
Oui, ils sont multiples.
À Villepinte, même s'il est clivant, il a multiplié les faux pas ces dernières semaines, sa base idéologique, Édouard Le Cerf, les questions qu'il soulève imprègnent la campagne et traversent le débat.
Ah ben c'est évident qu'il a marqué par son émergence dans la campagne, il a marqué les premiers éléments de la campagne, notamment de la campagne à droite. C'est vrai que ça a été le point de focalisation, ça a été les thèmes, mais justement, pour lui aujourd'hui, le défi, c'est de pouvoir, est-ce qu'il est capable de sortir simplement de ces thèmes qui ont marqué un premier élément de l'agenda médiatique et l'agenda médiatico-politique. On le voit bien, c'est la capacité qu'il aura à pouvoir déborder ces éléments-là qui pourront donner une crédibilité. On parle de la droite, on parle de la manière dont elle peut, à travers ses électeurs, être tentée. Encore une fois, on est en train d'entrer petit à petit, pas encore tous les électeurs, dans quelque chose. C'est une autre dimension. On parle plus de 100 000 électeurs potentiels de droite pour une première de droite. On parle plus d'électeurs virtuels qui sont ceux des sondages. On va parler maintenant de millions d'électeurs qu'il va falloir convaincre qu'il y a une motivation, qu'il y a des éléments qui peuvent les amener à aller voter sur un projet autour d'une personne. Vous savez, c'est en général le rassemblement d'un projet, d'une personne, la capacité à pouvoir articuler les deux. On est vraiment à ce moment-là, en tout cas au début de ce moment-là.
Ça veut dire qu'il va falloir élargir le discours et les thèmes de campagne et plus seulement se focaliser sur les questions de sécurité ou d'immigration.
C'est toute la difficulté.
De France qu'on ne reconnaît pas.
Oui, c'est toute la difficulté pour l'ensemble des candidats de pouvoir avoir à la fois quelque chose qui les démarque, quelque chose qui les singularise, mais aussi quelque chose qui n'exclut pas ces nombreux électeurs qui sont aujourd'hui un peu perdus. Il faut se rappeler encore une fois que au premier tour de l'élection présidentielle précédente, les électeurs de droite, si on dit par exemple les électeurs de François Fillon, c'était 7 millions de personnes. Ces 7 millions de personnes, elles sont diverses, elles représentent une diversité de la droite. Qui va être capable de pouvoir éventuellement agréger ces 7 millions d'électeurs de nouveau, ou au contraire, est-ce qu'ils sont, comme aujourd'hui, pour certains tentés par une candidature Macron si elle existait, par d'autres par Marine Le Pen et ce qu'elle elle peut représenter, Zemmour peut représenter aussi, ou simplement le fait d'être aujourd'hui perdu, parce que il faut savoir, il y a eu un traumatisme en 2017, il n'est pas complètement résolu. Il a été résolu par petits bouts, par partie, une fois par Macron, un peu par Zemmour, parfois par l'abstention. Aujourd'hui, il faut savoir si est-ce qu'on peut retrouver ces éléments dynamiques-là.
C'est le défi pour Valérie Pécresse, vous en parliez, elle a été choisie par les adhérents hier après-midi du congrès LR. Quels sont ses atouts, ses faiblesses ?
Elle a un atout qui est celui d'avoir d'abord remporté, ça peut créer une forme de dynamique, on l'a bien vu. Cette primaire à droite a créé une forme de plateforme sur laquelle, hier encore, les différents candidats heureux ou malheureux se sont retrouvés. Elle a même fait appel en expliquant qu'effectivement elle prendrait en compte chacune des prises de position des différents candidats. La question pour elle, c'est la question de, j'allais dire, de l'émulsion. Est-ce qu'elle est capable, avec ces différents éléments, de faire quelque chose qui va suffisamment vite pour faire prendre la sauce, pour faire prendre l'idée auprès des électeurs que, oui, il y a des différences, oui, il y a des divergences, mais en tout cas qu'elle est capable de les rassembler. Son déplacement demain chez Éric Ciotti est un élément pour montrer effectivement qu'elle est capable, elle aussi, de garder ces éléments-là. J'allais dire que presque entre, pour ceux qui suivent ça de manière très, très fine, entre hier et aujourd'hui, déjà les dynamiques ne sont pas exactement les mêmes. Hier, on était vraiment dans l'union, on était vraiment dans « oui, oui, on va faire tout cela ensemble ». Aujourd'hui, on est déjà à rappeler, on voit du côté d'Éric Ciotti, attention, n'oublions pas que j'ai des idées et il faut qu'elles soient défendues. Donc,
et qu'elles ont fait 39% des votes hier après-midi.
Absolument, oui, 39% auprès de
100,
auprès
2, 3 000
une centaine de milliers. Ouais. Là, on passe à une autre dimension, c'est un autre match, c'est vraiment un autre jeu dans lequel on entre.
Dernière question, Édouard Le Cerf, il reste une question justement, et peut-être un obstacle pour certains candidats, c'est les 500 signatures. On pense à Éric Zemmour d'abord. Peut-être à Jean-Luc Mélenchon.
Peut-être à Jean-Luc Mélenchon, qui n'aura pas le soutien des élus communistes, a priori, en tout cas de la majorité d'entre eux, puisque Fabien Roussel va représenter le Parti communiste cette fois-ci. C'est une épreuve importante, parce que c'est vrai que c'est le système démocratique tel qu'il existe en France. Il faut voir ces 500 signatures. Et c'est naturellement la prochaine épreuve, la prochaine barrière que chacun devra passer. Et ça n'est pas évident, ça n'est évident pour personne, ni pour Zemmour, ni pour Mélenchon. Donc aujourd'hui, on a pléthore de candidats potentiels, le nombre va sans doute se réduire assez rapidement.
Merci beaucoup Édouard Le Cerf, directeur général adjoint du groupe BVA. Merci à vous. Et ce Covid qui s'invite dans la campagne perturbe déjà certains meetings. Le meeting samedi prochain, porte de Versailles, pour lancer la candidature de Valérie Pécresse dont on parlait à l'instant, ne se tiendra pas en physique. En revanche, dimanche, le meeting d'Anne Hidalgo à Perpignan est lui maintenu, mais avec un pass sanitaire. L'épidémie de coronavirus continue de progresser, vitesse grand V. Plus de 51 000 nouveaux cas recensés hier, dont 4 contaminations par le nouveau variant Omicron. Dans toute la France, 16 cas de variant Omicron ont été recensés. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a annoncé hier soir que 10 millions de Français ont reçu une dose de rappel. Et demain, lundi, un conseil de défense sanitaire examinera la possible vaccination prioritaire des enfants de 5 à 11 ans. Le pape est arrivé ce matin sur l'île grecque de Lesbos au chevet des migrants. Le pape s'est rendu dans le camp de Mavrouvouni qui abrite encore près de 2000 personnes, des demandeurs d'asile. Le pape François a une nouvelle fois appelé à mettre fin à un naufrage de civilisation.
Par-dessus tout, si nous voulons repartir, regardons le visage des enfants. Ayons le courage d'éprouver de la honte devant eux, qui sont innocents et représentent l'avenir. Ils interpellent nos consciences et nous interrogent. Quel monde voulez-vous nous donner ? Ne fuyons pas trop vite les images crues de leurs petits corps gisant sur les plages. La Méditerranée, qui a uni pendant des millénaires des peuples différents et des terres éloignées, est en train de devenir un cimetière froid sans pierre tombale. Ce grand plan d'eau, berceau de tant de civilisations, est désormais comme un miroir de la mort. Ne permettons pas que la Mare Nostrum se transforme en une désolante Mare Mortum, que ce lieu de rencontre devienne le théâtre de conflits. Ne laissons pas cette mer des souvenirs devenir la mer de l'oubli. Je vous en prie, arrêtons ce naufrage de civilisation.
Vi prego, fermiamo questo naufragio di civiltà.
Le pape François à Lesbos, propos recueillis par Bruce de Galzin. L'actualité à l'étranger avec une journée historique en Gambie et la première élection présidentielle depuis le départ en 2017 de Yahya Jammeh, l'ancien dictateur qui a régné pendant 22 ans à la tête de ce pays. Petit pays anglophone et enclavé dans le Sénégal, 6 candidats étaient en lice, dont le président sortant, Adama Barrow. Le résultat du vote ne devrait pas être connu avant ce soir, en raison du temps que prend le dépouillement. Et les électeurs de Gambie attendent maintenant le nom de leur futur président. Reportage à Banjul, la capitale, lors du vote, Théa Olivier.
Dans la cour d'une mosquée, le dépouillement commence. Ici, les électeurs votent avec une bille glissée dans un bidon en métal à l'effigie de leur candidat. Elles sont ensuite comptées sur une planche en bois de 200 trous. Un système dont est fier Ramé Sonko, confiante cette fois-ci dans le processus électoral.
C'est l'une des élections les plus pacifiques que j'ai observées. La dernière était violente, mais cette fois-ci, les gens ne se sont pas battus. C'est très bien organisé.
Maria Badanfa est l'une des dernières à voter dans son centre électoral. Habituée à aller aux urnes durant le régime de l'ancien dictateur Yahya Jammeh, elle note une réelle évolution.
Avant, quand je venais voter, je ne voyais pas beaucoup de monde, mais cette année, il y a beaucoup d'électeurs. Les dernières années, je n'aurais même pas eu le courage de vous parler parce que j'aurais eu peur qu'ils m'entendent et qu'ils viennent me chercher.
Lamine Camara a plus de 30 ans, il vote pour la première fois.
Avant, c'était inutile de voter. Même si vous le faisiez, il n'y avait pas de changement. Mais là, personne ne m'a corrompu. Je vote sciemment dans le secret.
Les observateurs internationaux et locaux n'ont pas noté d'incident majeur durant la journée de vote. À Banjul, Théa Olivier, France Inter.
La mort de Pierre Rabhi hier soir à l'âge de 83 ans. Denis Chessou dans CO2 Mon Amour tout à l'heure à 14h consacrera une émission spéciale à Pierre Rabhi, figure de l'agroécologie en France. Denis Chessou avait rencontré récemment Pierre Rabhi chez lui en Ardèche. CO2 Mon Amour à 14h. Près de 74 millions d'euros de promesses de dons. La 35e édition du Téléthon affiche un compteur en nette hausse par rapport à l'édition précédente, confinée pour cause de Covid. Cette année, l'événement de collecte de dons pour la recherche sur les maladies rares a pu réinvestir villes et villages en France. Et grâce à vos dons, la vie gagne. Laurence Thiénou-Herman, présidente de l'organisation AFM Téléthon.
On retient que c'est un Téléthon chaleureux. D'ailleurs, on avait un parrain particulièrement chaleureux et généreux, et un Téléthon qui a renoué avec le terrain, un Téléthon avec la possibilité de mettre en avant ces formidables victoires. Ça, c'est important, puisqu'au-delà de la collecte, c'est aussi de partager justement ces victoires, ces formidables résultats. On a vu comment la vie gagne, puisqu'il y avait beaucoup de témoignages de familles dont la vie des enfants a été sauvée grâce à la thérapie génique. Et puis on a vu aussi l'espoir chez d'autres familles qui, elles, attendent encore. Donc c'est vraiment un téléthon où se mélangeaient beaucoup, beaucoup d'émotions avec des vies sauvées et des vies qui attendent.
Laurence Thiénou-Herman, et vous pouvez continuer à donner pour le Téléthon pendant encore quelques temps en composant le 3637 ou sur internet don.téléthon.fr. L'un des rendez-vous sportifs du jour, c'est le championnat du monde de handball féminin en Espagne. L'équipe de France affronte ce soir la Slovénie. C'est le deuxième match de la compétition pour les Françaises qui sont bien parties après leur succès 30-20 et 10 buts d'avance vendredi contre l'Angola. Double objectif cet après-midi à 18h pour les championnes olympiques. Assurer définitivement leur qualification pour le deuxième tour et tirer un trait définitif sur le traumatisme des derniers championnats du monde il y a 2 ans au Japon. Jean-Pierre Bimaud.
Oui, car malgré le titre olympique de cet été à Tokyo, le traumatisme du mondial japonais catastrophique de 2019 à Kumamoto est encore dans les têtes. 8 des 18 joueuses sélectionnées pour ce nouveau mondial ont d'ailleurs vécu cette désillusion il y a 2 ans. Le premier match vendredi a été bien négocié avec une victoire de 10 buts contre l'Angola. L'adversaire du soir, la Slovénie, a également bien démarré en battant le Monténégro avec le même écart. Sur un plan purement comptable, le sélectionneur des Bleus, Olivier Crumbles, insiste sur l'importance d'une victoire contre les Slovènes, car la France et la Slovénie devrait être en concurrence pour une qualification en quart de finale lors du deuxième tour. Olivier Crumbles.
Ça s'est bien décanté dans la poule, avec 2 équipes qui sont parties vers le haut et 2 qui sont plutôt parties vers le bas. Est-ce qu'il va y avoir confirmation ou pas? Mais ce qui est confirmé, c'est que le match contre les Slovènes est un match très important. C'est déjà un petit tournant. Il y a toujours le spectre de Kumamoto qui traîne par là.
Avec la nouvelle formule d'un premier tour à 3 matchs au lieu de 5 lors des précédents mondiaux, l'équipe de France a tout intérêt à enchaîner. Une victoire ce soir serait d'ailleurs un billet définitif pour le deuxième tour, avant de disputer le match de mardi contre le Monténégro pour la fin du premier tour.
Dernier rappel et clap de fin pour les 43e Transmusicales de Rennes. Le festival de toutes les musiques se termine aujourd'hui et une nouvelle fois, malgré le Covid, ce festival aura fait découvrir de nouvelles tendances musicales, tout style confondu. Parmi les temps forts, il y a traditionnellement la création qui se déroule sur plusieurs jours. Cette année, c'est Luigi Pekka, l'un des rappeurs du groupe Rennais Columbine, qui a été choisi pour occuper le théâtre de l'air libre, Mathieu Culeron.
Je me casse avant de ne sourire qu'en photomontage.
Luigi Pekka a transformé la scène de l'air libre en véritable parking. Une voiture rose fluo accompagnera sur scène le membre de Columbine pour toute sa tournée solo, le rappeur-chanteur qui peaufine son nouveau statut de solitaire.
Dans un concept comme l'air libre qui se passe dans un théâtre, la musique reprend le devant. Moi, je suis aussi là pour convaincre des gens qui ne me connaissent pas et je trouve ça intéressant parce que j'étais moins confronté à ça. Donc c'est aussi repartir de quelques pas en arrière, de refaire des plus petites salles que j'avais fait à l'époque. Donc c'est comme une seconde naissance dans la zig, donc avec un peu plus de maturité, tu vois, d'expérience et savoir un peu plus où je veux aller.
Jouer à domicile, c'est un moment particulier pour Luigi Pekka. La présence de sa famille, de ses amis, rend le spectacle encore plus intense.
Les Transmusicales, c'est un des premiers shows de Columbine. C'est un festival auquel j'allais quand j'étais petit. Cette créa, je me rends compte qu'au final, c'est un peu l'histoire de mon parcours dans la musique et de ma vie à Rennes qui se symbolise et tout, tu vois. Donc, c'est chargé en émotion et en bonne vibe, quoi.
Luigi Pekka, la création qui sonne la fin de ses 43e Transmusicales de Rennes. Le rappeur qui sera présent pour la plupart des gros festivals de l'été prochain.
Dans ta soirée, pas ma place. Dans la musique, pas ma place. À Paris, pas ma place. J'essaie juste de trouver ma place.
Mathieu Culeron, avant de se quitter, à noter ce rendez-vous aujourd'hui avec la finale du prix du journalisme des médias francophones publics. Vous pouvez écouter les 5 reportages en lice sur notre site franceinter.fr. Et c'est vous, un jury d'auditeurs qui désignera le meilleur reportage. Résultat ce soir dans le journal 19h. Le temps pour les heures qui viennent et pour demain.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Jean-Michel Golinski.
De la neige aujourd'hui à relativement basse altitude sur tous les massifs. Neige en forte quantité sur l'ouest de la chaîne des Pyrénées, avec à la clé une vigilance orange avalanche pour les Pyrénées Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Cet après-midi, le temps le moins menaçant, on va le trouver du golfe du Lion à la Provence et du Poitou-Charentes à la Bretagne, mais ailleurs il sera difficile de passer au travers des averses qui circulent sur le pays du nord vers le sud, des averses parfois mêlées de flocons jusqu'en plaine, le tout poussé par un vent de secteur nord sensible, souvent fort sur l'ensemble des littoraux, dans des températures affichant partout 2 à 4 degrés de moins qu'hier. Demain, c'est par l'ouest que de nouvelles pluies vont attaquer le pays. Elles vont venir s'échouer sur les régions de l'est en fin de journée, en s'accompagnant de neige à partir de 400 mètres sur le massif central et des Ardennes aux Alpes, tandis que les Pyrénées vont sortir du secteur neigeux à partir de demain matin.
Jean-Michel Golinski de Météo France.